justement par rapport à vos voisins, est-ce que vous n'êtes pas un révélateur du Christ intérieur qui porte en eux-mêmes et du coup de la vision du Jésus musulman, voire plus, puisque pour les chrétiens, effectivement, Jésus est à la fois homme et à la fois Dieu.
Oui, un mystère qui nous habite beaucoup, c'est ce mystère de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. À partir de là, on peut se dire, comme le dit saint Paul, que nous aussi, nous avons à vivre les souffrances du Christ, qui peuvent aller jusque donc au don physique de sa vie, mais certainement au don chaque jour. Saint Paul dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens que chaque jour, il traverse les affres de la mort, non seulement pour lui-même revivre, mais pour aussi donner cette vie à ceux qui l'entourent. Et c'est donc le processus de la vie chrétienne qui est toujours ce processus de mort et de résurrection chaque jour. Et pour ce qui me concerne, avec toute notre communauté et moi de manière peut-être un peu caricaturale, le fait que j'ai vécu dans les beaux quartiers, que j'avais un peu tout dans la vie, le fait de descendre l'échelle sociale et de faire cette mobilité sociale descendante volontaire, ça n'est finalement qu'une réplique à une très faible mesure de cette mobilité sociale descendante volontaire de Dieu lui-même, qui aurait pu rester là-haut dans le ciel, mais qui est venu habiter parmi nous. Donc venir habiter dans une cité HLM sans faire de bruit, et au début nos voisins n'ont absolument pas décodé qui on était, eh bien c'est une révélation progressive effectivement de qui est le Christ Jésus. Alors cette révélation, elle se fait à travers notre vie imparfaite, mais qui quand même dit quelque chose, et aussi parce que dans la rencontre de nos voisins, qui sont cet étranger accueilli, qui est aussi le Christ accueilli, ce pauvre qui est aussi le pauvre, le Messie souffrant, donc eux aussi sont porteurs du Christ, et il s'agit dans notre rencontre de faire émerger ce vrai visage de Dieu, qui est un Dieu finalement qui dépasse de très très loin l'image peut-être qu'on pourrait en avoir au départ, c'est-à-dire d'un Dieu de pure transcendance, qui est plutôt le Dieu que l'on trouve dans le Coran, un Dieu qui est là-haut et qui au maximum nous donnerait un livre de bonne conduite, mais qui ne se donne pas lui-même. Or, dans la vie chrétienne, il ne s'agit pas simplement de suivre des observances pour être en règle avec Dieu, il s'agit vraiment d'une rencontre intérieure avec ce Dieu vivant et qui va nous conduire à nous donner totalement nous-mêmes, comme lui-même s'est donné totalement en notre humanité, dans ce mystérieux échange de son humanité et de sa divinité. De riche qu'il était, il est devenu pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté, dit saint Paul. Et donc là, c'est vraiment tout un mouvement de la vie spirituelle chrétienne que nous avons à découvrir et à vivre. Et nos voisins, progressivement, peuvent découvrir ceci. J'ai par exemple une de mes voisines qui, m'entendant à la radio, après 12 ans de présence, me dit « Mais Henri, je ne savais pas que tu étais trader, je ne savais pas tout ce parcours. » Elle lit mon livre, mais au bout de 12 ans de présence. Et elle se jette dans mes bras en me disant « Mais je croyais que moi, j'étais une citoyenne, me dit-elle, et toi, tu es un super citoyen. » C'était ces mots pour exprimer cette présence au monde. Et elle avait perçu un certain nombre de choses, c'est-à-dire finalement un amour qui vient d'ailleurs, qui nous traverse et qui nous rejoint dans ce partage de vie qui au début donc n'était pas chargé d'un dialogue religieux, confessionnel, mais qui à la fin, avec très peu de mots finalement, est capable au bout d'un certain temps de porter ses fruits, c'est-à-dire d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'est la vie spirituelle et donc du Dieu qui anime cette vie spirituelle. Et donc on voit bien qu'il ne s'agit pas de conférences sur des dogmes qui seraient opposés, mais d'une expérience concrète, une expérience qu'on pourrait qualifier de mystique au départ pour ce qui nous concerne nous comme communauté monastique, mais qui se traduit par un style de vie, par un lieu de vie, par des relations avec nos voisins qui progressivement sont une véritable catéchèse, c'est-à-dire que c'est un enseignement à travers tous ces gestes du Dieu auquel nous nous référons. Et c'est là que, effectivement, le visage du Christ, progressivement, peut se révéler à travers ces rencontres.
Qu'est-ce que, selon vous, être chrétien, actuellement ?
Pour ce qui me concerne, être chrétien, je me réfère toujours à cette lettre de frère Christophe de Tibirine qui a été assassiné à l'âge de 45 ans, qui voulait être missionnaire, cette lettre dans laquelle il dit « Je me découvre de plus en plus une mission, devenir frère ». Et donc la vocation chrétienne, c'est vraiment cette vie fraternelle. Dieu est amour, nous n'avons qu'un seul commandement, nous aimer les uns les autres. Et donc la vie chrétienne est un humanisme au sens qu'il s'agit d'un amour de l'homme. Il n'y a pas de concurrence entre Dieu et l'homme. Jésus est l'homme parfait et cet homme parfait, c'est justement la divinisation de l'homme. C'est-à-dire que notre paradis ne consiste pas à être dans un endroit où on va avoir des choses extraordinaires. C'est beaucoup plus profond que ça. Le paradis, et ça commence déjà ici sur terre, comme le dit très bien saint Jean dans beaucoup de ses passages dans les évangiles, dans ses lettres, eh bien, c'est cette participation à la vie divine. La vie éternelle, dit saint Jean, c'est de te connaître, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et te connaître au sens biblique, c'est très très fort. Donc il s'agit d'une communion, d'une union avec Dieu. Et donc la vocation chrétienne, c'est d'être transformé à l'image de Dieu, ce Dieu fraternel. Et donc ça se traduit par un royaume de Dieu qui gagne les corps et les cœurs progressivement dans cette résurrection qui est une résurrection de communion totale dans laquelle justement les barrières qui sont des barrières qui seraient sociales, des barrières qui seraient ethniques et même des barrières religieuses tombent. C'est cette histoire que je raconte dans mon livre avec mon jeune voisin qui me dit « je ne comprends pas le mot contraste ». Et Ahmed, qui a 8 ans à l'époque, qui a la peau bien foncée puisqu'il est d'origine comorienne, je lui montre mon avant-bras et moi j'ai la peau plutôt claire, je le mets à côté de son avant-bras et je lui dis « voilà, il y a un contraste, ta peau est noire, ma peau est blanche ». Il me regarde tout étonné et du haut de ses 8 ans me dit « mais ta peau n'est pas blanche, elle est rose et ma peau n'est pas noire, elle est marron ». Eh bien c'est lui qui avait raison. Aujourd'hui, on parle en pixels, on regarde la télévision en haute définition, et finalement, dans notre regard que nous portons les uns sur les autres, on a un regard encore en noir et blanc. On a des archaïsmes qui sont une vision binaire des gens qu'on va mettre dans des catégories. Or, derrière cette diversité infinie des êtres, il y a une communion profonde, et cette communion, c'est la communion qu'on peut trouver dans ce Dieu amour qui nous est révélé à la fin de la Bible juive et chrétienne.
La vie en cité a sans doute bousculé pas mal de vos idées reçues depuis 12 ans. Et en même temps, c'est la même chose, je présume, pour vos voisins directs. Depuis que votre livre est sorti, vous faites énormément de promotions, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, donc auprès des médias français. Est-ce que vous n'auriez pas pour tâche également de rééduquer, en tout cas de réinformer les médias sur justement les idées reçues, les idées toutes faites?
Je n'aime pas ce mot de promotion, sauf si c'est de la promotion humaine, mais il ne s'agit pas là de marketing, ni de gagner de l'argent. Mais je crois vraiment à la force du témoignage, c'est arrivé à un certain temps d'expérience, vous pouvez témoigner de faits, c'est-à-dire que ce n'est pas des théories. Et moi je raconte dans mon livre « Moine des cités » beaucoup de petites anecdotes, mais qui sont des anecdotes significatives et qui vont tout à fait dans le sens de ce que vous dites. C'est-à-dire c'est un témoignage sur la capacité de métamorphose de l'esprit de Dieu qui souffle où il veut. Et qui souffle toujours, en tout cas dans la direction de l'amour fraternel. Et toutes ces petites histoires sont là pour nous montrer que finalement, oui, il y a toujours une force de transformation dans le monde. Et qu'en fait, la plupart des gens vivent dans des abstractions qui sont entretenues d'une part par l'ignorance qu'ils ont les uns des autres. Et quand je suis arrivé dans mon quartier, un certain nombre de jeunes me parlaient des Français, alors qu'eux-mêmes étaient Français. Ils me disaient « mais moi j'ai que la carte ». Et en fait, par le biais des rencontres, l'accompagnement scolaire, etc., les gens ont fini par se connaître, apprendre à savoir qui ils étaient vraiment. Et donc, on passe d'abstractions qui sont généralement mortifères, qui sont des abstractions souvent liées à des peurs, voire peut-être aussi des jalousies. Et on passe de ces abstractions à des stéréotypes qui deviennent plutôt des prototypes, c'est-à-dire des vrais types vivants et des gens qui sont nouveaux, une humanité nouvelle. C'est-à-dire que tout d'un coup, est possible, eh bien, par exemple, que mon voisin Badran, d'origine comorienne, qui rêve d'être banquier, rencontre un ancien banquier dans sa cité et devient banquier, c'est une histoire vraie, au bout de 10 ans, en trouvant un CDI dans une banque française, et réalise son rêve. Voilà. Donc, c'est possible d'avoir un banquier qui descend dans une cité HLM et un jeune d'une cité HLM de famille musulmane avec la peau foncée qui devient lui banquier au bout de 10 ans. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est capable de réaliser ce que les gens pensent impossible. Et ça, il faut arriver, et c'est la tradition biblique, de montrer que notre espérance chrétienne, elle s'enracine sur des faits, elle s'enracine sur du réel, elle s'enracine sur une histoire. Et c'est, je crois, la preuve à apporter dans le monde dans lequel nous vivons que ces histoires-là sont possibles. Et donc, il faut d'abord les vivre. Après, il faut être capable de relire toutes ces histoires et puis d'en témoigner, puisque en témoignant de ces histoires, on rend d'autres histoires possibles. Et comme je l'ai dit au début de mon livre, dans ma dédicace, ce livre, il est aussi dédicacé à tous ceux qui écriront par leur vie la suite de cet ouvrage. C'est-à-dire que dans notre tradition biblique, il s'agit d'abord de vivre des événements. Notre foi, c'est avant tout un événement. Jésus, c'est un événement. Et qu'une fois qu'on a vécu ces événements, par la relecture, par la parole, on peut en donner le secret profond et par là même inviter les gens à poursuivre cette histoire et à transformer le monde, qui généralement se transforme par des toutes petites choses, puisque, on le sait, le royaume de Dieu est ce petit grain de sénévé, la plus petite des graines, qui progressivement grandit et transforme le monde.
Alors justement, vous qui avez été auparavant au contact direct du monde de la finance, quelle est la vision que vous portez, pour le coup, de cette crise ou qu'on nous vend comme essentiellement financière? Est-ce que pour vous, c'est juste un dysfonctionnement du système libéral et donc de l'usure, de l'usufruit?
Alors dans cette crise, et je dirais c'est une perspective chrétienne, c'est toujours le cas, il y a à la fois une dimension extrêmement incarnée et une dimension technique. Donc il y a une dimension technique ici parce que le marché hypothécaire américain, donc les prêts immobiliers faits à des ménages ayant de faibles revenus, est un système qui, quand il a été mis en place, était fondé sur une hypothèse tout à fait fallacieuse, c'est que le prix de l'immobilier n'arrêterait pas de monter. Et donc quand le prix de l'immobilier a fini par se retourner, les banques qui pouvaient se saisir de ces biens immobiliers quand les gens n'étaient plus solvables, quand ils ne pouvaient plus rembourser leur emprunt, eh bien, se sont retrouvés avec des maisons qui valaient moins que l'argent qu'ils avaient prêté. Et donc, ils ont dû aller emprunter à des banques, ce qui a fait monter les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt montant, les gens qui avaient emprunté à des taux variables ont eu encore plus de difficultés pour rembourser. Donc, ils ont à nouveau saisi des maisons. Ça a encore fait baisser les prix de l'immobilier, monter les taux d'intérêt. Et par un système de cascade, finalement, est arrivée une crise de liquidité bancaire, la bourse qui baisse, et puis finalement, donc, des conséquences de récession pour l'économie dite réelle, c'est-à-dire l'industrie, les services, etc. Donc il y a une dimension technique à cette crise. En même temps, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les autorités qui étaient chargées de réguler le marché, puisqu'il y en avait, il y a deux grandes sociétés américaines pour le marché hypothécaire, pour les actions, il y a ce qu'on appelle la SEC, qui est une institution chargée de surveiller, comment est-ce qu'on a pu laisser passer aussi l'affaire Madoff, qui là est une escroquerie en bonne et due forme, etc. Là, on touche à des questions qui ne sont plus seulement techniques, mais qui sont des questions spirituelles, éthiques, c'est-à-dire comment est-on arrivé à une société dans laquelle, finalement, les gens préfèrent fermer les yeux sur toutes ces petites escroqueries, sur la viabilité de ces systèmes? Eh bien, peut-être parce que dans notre société, on n'a pas assez réfléchi à notre rapport à l'argent. Peut-être qu'en enlevant la dimension religieuse, la dimension spirituelle, la dimension éthique, on est resté dans une société, finalement, où c'est chacun pour soi, l'argent à court terme, sans se poser des questions de développement durable, d'écologie et de justice sociale. Et si tel est le cas, cette crise est salvatrice dans le sens où elle permet au niveau international et sans doute aussi les institutions internationales ne sont pas assez développées pour faire face à ces mouvements de capitaux qui par définition sont internationaux, eh bien c'est de redéfinir finalement les objectifs de notre société et puis se poser des questions en termes personnels et en termes communautaires, quel est mon rapport à l'argent? Et on retrouve des vieilles choses comme la liste des 7 péchés capitaux qui malheureusement sont les traductions maladroites de réflexions d'un moine qui s'appelle Évagre le Pontique, qui parlait de notre rapport à différents éléments, et notamment ce qu'on a appelé l'avarice, mais c'est très pauvre pour expliquer ça, mais c'est notre rapport à l'argent, c'est-à-dire, dans la tradition biblique, la richesse n'est pas un mal, mais c'est un danger, parce que le cœur de l'homme, comme dit le prophète Jérémie, est compliqué et malade, et donc parfois on est obsédé par la richesse, on veut garder la richesse pour soi, on met notre cœur dans la richesse, comme le dit un psaume. Et il s'agit au contraire de bien user des choses qui passent, de l'argent qui est un bon serviteur, pour s'attacher aux choses qui ne passent pas, parce que l'argent est un mauvais maître. Et donc on trouve au cœur de cette crise le substrat éthique qui fait fonctionner ces marchés et qui fait fonctionner les sociétés, à savoir que la finance est au service de l'économie et l'économie est au service de l'homme. Si tel n'est pas le cas, on retrouve des réflexions de Jésus qui disait aux Juifs, attention à ses coreligionnaires, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et de la même manière, l'homme n'est pas fait pour l'économie. L'économie est faite pour l'homme et la finance est faite pour l'économie et pour l'homme. Donc on retrouve des questions essentielles et qui, là, posent des problèmes d'éducation. Et il est symptomatique qu'un trader, comme je l'étais, pouvait toucher en un mois un bonus équivalent de mon salaire fixe de professeur à mi-temps, puisqu'aujourd'hui j'enseigne à mi-temps. Ça en dit long sur les priorités de notre société. Et ça veut dire qu'il y a une profonde réflexion à avoir et sortir de visions très mécanistes du progrès social ou du progrès humain qui consisterait simplement à mettre de l'économie de marché et tout ira bien, ou alors à envoyer l'armée américaine pour renverser une dictature et puis mettre des bulletins et des urnes pour avoir des élections. Non, la démocratie, l'économie mixte, l'économie sociale de marché, une économie complexe au service de tous, c'est aussi et d'abord le fruit d'une éducation. Et pour éduquer un jeune, il faut au moins 20 ans. Et donc c'est un patient travail, c'est aussi la responsabilité de chacun d'entre nous. Et je crois que c'est une invitation, cette crise, à revoir peut-être la société mondiale que nous voulons voir émerger à travers cette connexion de plus en plus complexe et subtile et en même temps massive de ces milliards de personnes qui, en fait, ont tout intérêt à mener une vie fraternelle pendant les années que nous avons à passer sur Terre. Et donc, c'est inventer ces institutions, inventer ces habitudes, inventer ce code de bonne conduite et cette manière de vivre ensemble pour aller jusqu'au bout de cette crise et faire en sorte qu'un monde meilleur émerge de ces difficultés.
Alors, vous faites pas mal de conférences ces derniers temps, au moins une par semaine, donc vous voyez énormément de monde. Est-ce que, donc, du fait de votre parcours un peu atypique, est-ce que, à la manière des Kwan Zen, vous n'êtes pas vous-même un Kwan pour ces gens, justement, essayer de déclencher peut-être un processus de réflexion, mais en sens inverse?
C'est une excellente question et bien posée. Je crois qu'il faut être capable de rester une énigme à soi-même, une énigme aux autres, parce qu'une énigme, un koan, comme vous le dites dans cette tradition zen japonaise, c'est précisément une histoire sur laquelle on médite et qui va vous inviter, vous, à vous décentrer, à vous remettre en cause. Et donc mon histoire, souvent je dis, c'est une caricature. Les caricatures grossissent les traits. Le trader né à Neuilly-sur-Seine, franco-américain qui va habiter les quartiers nord de Marseille après être passé dans un monastère traditionnel, ouf, ça fait beaucoup. Oui, c'est une caricature. En même temps, ça nous renvoie tous à nos rapports à l'argent, nos rapports à Dieu dans ma vie, qu'est-ce que ça veut dire, notre rapport à l'humanité, ces migrations qui viennent dans nos pays, comment accueillir le pauvre et l'étranger. Eh bien, tout ça, c'est une question plus qu'une réponse toute faite. Et c'est très important, effectivement, que chacun soit mis en route. Il ne s'agit pas de vivre une vie exceptionnelle ou sublime. Ça fait bientôt 48 ans que je vis avec Henri Quinson. Je vois toutes mes limites, mes défauts, mes insuffisances. Mais je crois qu'en même temps, ces gestes prophétiques dans la tradition biblique, c'est aussi un certain nombre d'actes qui sont posés et qui sont une espèce de poil à gratter, un petit coup de pied dans la fourmilière et qui permettent aux fourmis qui croyaient peut-être qu'il suffisait de faire métro, boulot, dodo et de ne pas se poser de questions devant un bon film de Hollywood ou alors sa Game Boy, et bien finalement d'accepter d'être vivant, c'est-à-dire de se remettre en question et justement de mener une vie savoureuse qui a du sens et qui soit plus belle. Donc il est important, je pense, de rester dans cette vie qui n'est pas simplement une réponse, mais qui est surtout une question, une invitation chacun à vivre davantage.
Merci Henri Quinson. Une dernière question, est-ce que votre vocation a fait des émules autour de vous?
Alors au début j'ai commencé tout seul et puis donc très rapidement il y a Karim de Broucker qui a cofondé cette fraternité avec moi. Et puis nous avons été rejoints par Jean-Michel qui voulait dans un premier temps repartir à Tibirine et qui a pu vivre 8 ans en Algérie. Et puis rejoint également aussi par Jean-Paul Lejeune, un prêtre belge. Un couple aussi qui vit avec nous depuis 5 ans, puisque nous avons maintenant 3 appartements dans notre cité à Marseille. Et puis cette soixantaine de bénévoles qui nous aident notamment pour l'accompagnement scolaire. Et puis à travers les conférences et les témoignages qu'on peut donner à l'extérieur, c'est aussi mettre en route des gens, pas forcément directement avec nous, mais dans une réflexion et une réponse dans leur vie quotidienne. Ça peut être aussi leur vie familiale et professionnelle ou leur vie associative. Donc des émules, oui, de fait, on est plus nombreux que quand on a commencé. Et alors la question après pour nous, c'est de voir si au terme de ce travail de témoignage, on peut avoir d'autres communautés qui s'implanteraient ailleurs. Voilà, c'est là, je dirais, l'esprit répondra, les événements répondront pour savoir si finalement notre vocation est simplement d'avoir cette petite communauté à Marseille ou si elle peut se répliquer avec d'autres personnes dans d'autres cités en France, puisque de toute évidence, les besoins sont profonds et durables.
Bien. Henri Quinson, merci beaucoup pour cet entretien et puis on vous souhaite bon vent.
Merci à vous et merci à vos auditeurs.